l'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Ah, merci.
Comme vous l'avez peut-être compris en écoutant ce classique du blues, Sweet Home Chicago, nous allons parler cette semaine de cette ville de l'Illinois, Chicago, sur la rive sud-ouest du lac Michigan aux États-Unis. Nous allons évoquer des lieux, des musiciens, des genres musicaux, des dates historiques, grâce à notre invité du jour qui a fait paraître aux éditions Le Mot et le Reste un livre passionnant intitulé Streets of Chicago. Philippe Broissat, merci d'être avec nous.
Bonjour Joe, merci à vous de m'inviter.
Vous êtes en duplex de Lyon grâce aux moyens techniques de Radio France, mais la distance qui nous sépare ne va pas nous empêcher de voyager en musique. Vous avez déjà édité des ouvrages dédiés à New York et à Los Angeles, et ce nouveau périple à Chicago est l'occasion d'arpenter des rues, des avenues, des quartiers de la Windy City, la ville aux quatre vents. Pourquoi toutes ces villes américaines vous passionnent-elles ?
Pas seulement les villes américaines, j'ai écrit également un livre sur Londres et sur Liverpool, toujours aux éditions Le Mot et le Reste, pour vous raconter un petit peu ma vie, un tout petit peu, très rapidement ma vie. Je suis né dans une petite bourgade pas très loin de Saint-Étienne et c'est vrai que toute ma jeunesse, j'ai rêvé de toutes ces villes en écoutant ces musiques, en me disant mais qu'est-ce qui se passe là-bas à Los Angeles, à San Francisco, à Londres, à Chicago, etc. Et puis quand j'ai pu, au fil du temps et au fil des années, rejoindre ces contrées, et bien naturellement je suis allé sur les lieux mythiques qui m'avaient fait rêver, sur les adresses mythiques. J'ai cherché, j'ai photographié au niveau de toutes les rues, les quartiers, les adresses, les maisons, les studios d'enregistrement, etc. Et ainsi, ça a été ma quête pendant des années et des années. Je vous cache pas que j'ai même passé des vacances avec ma femme et mes enfants sur ces lieux un peu mythiques. On a fait par exemple la fameuse route du blues entre Détroit et Nouvelle-Orléans, donc en passant par Nashville, Memphis, etc. Peut-être qu'une bonne psychanalyse me ferait du bien, mais en tout cas, moi j'adore ça, j'adore.
Dans Streets of Chicago, vous déambulez du South Side au North Side, en décrivant des lieux légendaires et en narrant des histoires sociales et artistiques. Nous avons ouvert cette émission avec Street Home Chicago dans la version des Blues Brothers, un film principalement tourné à Chicago. Est-ce que les lieux des différentes scènes avec Aretha Franklin, Ray Charles, James Brown existent toujours aujourd'hui ?
Il reste pas beaucoup de lieux du tournage de ce film. Malheureusement, par exemple, vous parlez d'Aretha Franklin, la fameuse scène où Aretha Franklin chante
Think
en plein milieu d'un restaurant pour montrer qu'elle ne se laisse pas faire par les autres, était située sur Maxwell Street, qui était une rue un peu mythique de la grande migration qui a vu les Afro-Américains du Sud migrer vers Chicago. Ils arrivaient à la Central Station, qui n'était pas très loin de ce quartier-là, et souvent ils s'installaient dans ce quartier-là. Et ainsi, autour de Maxwell Street, il y a eu un véritable phénomène musical, avec notamment des musiciens qui jouaient dans la rue. Certains, ensuite, sont devenus excessivement célèbres, mais au début, ils jouaient dans la rue, dans cette fameuse Maxwell Street, qui était aussi une sorte de grand marché aux puces, où on pouvait trouver absolument tout, y compris ce qu'on vous avait volé la veille. Et ainsi, la fameuse séquence d'Aretha Franklin a été filmée ici, dans un restaurant bâtiment qui était juste sur le bord de Maxwell Street. Alors Maxwell Street existe toujours, mais tous les bâtiments qui sont autour et qui étaient le long de cette rue n'existent plus. Maintenant, ce sont des nouveaux bâtiments tout neufs. Quant au fameux enregistrement de Ray Charles...
Oui, dans son magasin.
Alors, ce lieu a existé longtemps. Malheureusement, il a pris feu il y a une dizaine d'années et aujourd'hui encore, il n'existe pas. La seule chose qui existe dans cette séquence, si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a tout le monde qui se met à danser
dehors,
dehors dans la rue. Et on voit au fond le passage du métro aérien.
Ouais.
Et par contre, le métro aérien est toujours là. C'est la seule chose qui reste.
Sur la 47e rue.
Tout à fait.
Et la prison, alors ?
La prison, elle n'est pas près d'être détruite parce qu'elle est très, très solide. Elle existe toujours. Elle est dans la banlieue de Chicago. Elle n'est pas très loin de l'endroit, là aussi, si vous vous rappelez, de ce fameux pont où la voiture des Blues Brothers fait un espèce de vol plané au-dessus du pont qui s'ouvre et qui se ferme. Et la voiture est très solide puisqu'elle résiste à ce vol plané. Et le pont existe toujours, pratiquement nickel par rapport à l'époque du tournage.
Vous avez divisé votre livre en plusieurs secteurs de Chicago, le South Loop, le North Loop, Bronzeville, South Shore, West Side, Lakeview, etc. Si je vous dis Chess Records, où sommes-nous à Chicago ?
Alors, on n'est pas très loin du centre, en fait. On est dans South Loop. Donc, Loop, c'est le centre-ville. C'est les images les plus connues de Chicago, où à un moment donné, l'eau du lac rentre dans la ville, dans Chicago. C'est magnifique. Et comme il y a eu un grand incendie à la fin du 19e siècle, eh bien, coup de bol, on a pu ensuite reconstruire la ville en faisant appel aux meilleurs architectes américains de l'époque, et Dieu sait qu'ils étaient doués. Et on a pu comme ça construire le long de cette rivière des magnifiques buildings, peut-être parmi les plus jolis des États-Unis. Et donc, la balade en bateau le long de cette rivière, c'est absolument magnifique. Ça, ça s'appelle The Loop. C'est vraiment le centre-ville downtown de Chicago. Et après, il y a North Loop et South Loop. South Loop, c'est donc au sud de ce centre-ville. C'est pas très loin. À pied, ça fait quoi ? Ça fait une petite demi-heure. Et c'est là où les frères Chess, Leonard et Phil, des immigrés qui se sont au début installés à Chicago pour faire du commerce de liqueurs et d'alcool, qui ensuite ont décidé de créer leur propre maison de disques qui s'appelle de leur nom, Chess Records. Eh bien, ils sont situés à cet endroit-là qui s'appelle South Loop, le long de Michigan Boulevard, qui est un des boulevards les plus connus de Chicago, qui va du Loop jusqu'au sud de la ville.
Est-ce qu'on peut dire que Chess Records est le symbole de la vigueur musicale de Chicago au XXe siècle ?
Ô combien, c'est sans doute la firme, le label discographique, l'un des plus brillants de l'histoire de la musique qu'on aime. Le blues, tel que surtout les Anglais l'ont aimé dans les années 60, il faut savoir que les Stones, les Yardbirds, Cream, ils ont tout piqué au blues de Chicago. Ils l'ont piqué, mais pas en cachette. Ils se sont largement inspirés et ils ont dit que c'est à quel point ils étaient admiratifs. D'ailleurs, les Rolling Stones sont venus enregistrer à Chicago en hommage à ce studio. L'histoire de ce label est absolument incroyable. Les frères Chess, ensuite, ont vendu leur maison de disques et puis après ça a commencé à décliner. Ils ont acheté intelligemment une station de radio qui diffusait depuis Chicago, qui avait beaucoup de succès. Et puis un sale jour, Leonard Chess, en allant se rendre dans cette radio qui était son bureau, il a eu une crise cardiaque au volant de sa voiture et il est mort relativement jeune. Bref, Chess Records fait partie des grands labels qui ont marqué l'histoire de la musique du XXe siècle.
Il est intarissable. Philippe Brossa, je vous propose d'écouter un des enregistrements historiques du label Chess. Voici Uchi Kuchi Man par Muddy Waters.
The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about. But you know I'm here. Everybody knows I'm here. Well, you know the hoochie coochie man. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls
me by my hand, then the world I know the hoochie coochie man. But you know I'm here.
Amyo Uchikuchiman, Muddy Waters, enregistré le 7 janvier 1954 à Chicago dans les studios Chess. Ce qu'on peut préciser, Philippe Brossa, et vous l'avez dit et répété, c'est que nombre de bluesmen n'étaient pas originaires de Chicago. Ils avaient fui la ségrégation du sud des États-Unis pour trouver un climat social plus clément au nord. Peut-on dire que le Chicago blues n'est finalement pas un blues de Chicago ?
Bien sûr que le blues n'est pas né à Chicago, c'est sûr qu'il est né dans les plantations autour de Clarksdale. Vous savez, Clarksdale, c'est une petite bourgade que je connais, qui est vraiment pas grande du tout et pourtant qui a vu naître beaucoup, beaucoup de personnalités de l'histoire du blues, même de l'histoire du rock. C'est là où Bessie Smith, par exemple, est décédé. On connaît l'histoire de Bessie Smith qui a eu un accident de voiture. Aucun hôpital a voulu la prendre pour la soigner. Elle s'est retrouvée dans un espèce de motel et c'est comme ça qu'elle est morte, sans pouvoir réellement avoir des soins suite à son accident. Et bien, c'était à Clarksdale. Et donc, beaucoup de bluesmen venaient de plantations qui étaient dans ce fameux delta du Mississippi, autour de Clarksdale. Quand ils sont allés à Chicago, ils ont électrifié leur guitare et ainsi, ils ont fait donc du blues de Chicago.
Philippe Brossa, il n'y a pas que du blues à Chicago, il y a aussi du jazz, des labels, des clubs. Où se trouve le Savoy Ballroom ?
Alors pareil, le Savoy Ballroom se trouvait un petit peu plus au sud. Il y a eu une période absolument ahurissante. Il y avait des clubs à tous les coins de rue. C'était la fête perpétuellement. C'était extraordinaire. Savoy Ballroom, c'était un club où il y avait surtout des jazzmen à l'époque, notamment Benny Goodman, qui est né à Chicago. C'est un blanc qui jouait de la clarinette. Et Benny Goodman est né dans un quartier un peu pauvre aussi de Chicago, mais il a eu la chance d'avoir des parents intelligents qui ont dit « il a du talent, donc on va essayer de lui donner les meilleures possibilités pour qu'il développe son talent ». Donc ils ont économisé pour lui payer des cours de clarinette dans les meilleures écoles de musique de Chicago. Et c'est ainsi que Benny Goodman est devenu le fameux jazzman qu'on connaît. Il a un enregistrement Stomping at the Savoy qui fait référence et qui a été enregistré en live au Savoy Ballroom. Mais on peut citer aussi le Sunset Café, on peut citer aussi la Valonne, le fameux Sutherland Show Lounge. C'est un hôtel qui avait dans sa cave un club. Et un truc marrant, c'est qu'un jour, il y a Miles Davis qui a joué là. Et puis, le public était tellement fasciné par le jeu de Miles Davis au Sutherland Show Lounge qu'à un moment donné, il y a eu le feu dans une pièce de l'hôtel. Les pompiers sont arrivés avec les sirènes, ils ont dit évacuer, évacuer, évacuer. Il se trouve que dans la salle, personne n'a bougé. Les gens étaient complètement fascinés par le jeu de Miles Davis. Et donc, il a fallu vraiment les forcer à sortir. Il a fallu que Miles Davis arrête de jouer pour qu'enfin, ils sortent de la pièce.
On parlait de Miles Davis, il y a aussi des salles beaucoup plus intimistes comme le Plug Nickel. À quoi ressemblait ce club, le Plug Nickel, par rapport, par exemple, au Savoy Ballroom, qui était une grande salle de spectacle prestigieuse? Est-ce que c'était un petit club?
Oui, c'était un petit club, plutôt intimiste. Alors oui, une chose que j'ai pas mentionnée, c'est qu'à l'époque, Chicago était une ville qui était gangrénée par la pègre, notamment par Al Capone. Et Al Capone était actionnaire de pas mal de clubs de jazz. Il adorait le jazz, mais de façon authentique, Al Capone. Donc il était souvent dans ces clubs. Il s'installait dans une partie du club où il pouvait s'échapper facilement, où il y avait une porte qui pouvait lui permettre de s'échapper si jamais les flics ou la bande adverse arrivaient. Quand il arrivait, il disait « Tiens, ça me ferait plaisir que d'écouter tel titre ». Et effectivement, il jouait le morceau que Al Capone aimait bien.
Chicago est aussi le lieu de naissance discographique d'un autre trompettiste de légende, Louis Armstrong, natif de la Nouvelle-Orléans, mais qui arrive à Chicago le 8 juillet 1922, j'ai lu ça dans votre livre, et se dirige immédiatement au Lincoln Gardens. Pourquoi, Philippe Brossa ?
Parce qu'il s'était lié d'amitié avec King Oliver, qui habitait aussi à Nouvelle-Orléans avant d'émigrer sur Chicago. Et King Oliver lui avait dit « Le jour où tu veux jouer avec moi, pas de problème, tu viens, je t'intègre à mon groupe, viens à Chicago, tu verras, c'est super, etc. » Donc effectivement, ce fameux 8 juillet 1922, il est arrivé à la gare centrale de Chicago et il s'est dirigé directement au Lincoln Gardens, où King Oliver jouait avec son créole jazz band. Il y avait les fameux frères Dots, notamment Baby Dots à la batterie, qui était un pur génie de la batterie. Et puis dans ce groupe, il y avait également Lil Hardin, une pianiste, la copine puis la femme historique de Louis Armstrong. Et donc ce jour-là, il s'est rendu au Lincoln Gardens, il a été très bien accueilli par King Oliver, qu'il a effectivement, comme promis, intégré à son groupe, le Creole Jazz Band, et donc sa carrière a commencé ainsi.
Et donc c'est à Chicago, le 9 mai 1927, qu'il enregistre Chicago Breakdown, que voici. Chicago Breakdown, Louis Armstrong en 1927. Nous parcourons les rues de Chicago cette semaine dans l'épopée avec Philippe Brossa, auteur d'un livre très instructif, Streets of Chicago, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Beaucoup d'artistes sont natifs de Chicago. Quincy Jones, Herbie Hancock, Oscar Brown Jr., Benny Goodman, Eddie Harris, Ramsey Lewis, Curtis Mayfield, Mavis Staples. Il doit y avoir beaucoup de lieux portant le nom de personnalités marquantes à Chicago, non ?
Oui, alors il y avait Sam Cooke, ouais. Sam Cooke par exemple est né à Chicago. Sam Cooke était un très très bel homme, belle voix, superstar, une idole, mais surtout un symbole pour les Afro-Américains, qui vraiment l'adulait avec une voix absolument étonnante, enfin une voix magnifique. Il est mort dans un motel minable, assassiné par la patronne du motel d'une balle de revolver. Il était en compagnie d'une... j'ai envie de dire une femme aux mœurs légères, qui lui a piqué de l'argent dans son portefeuille, s'est cassé en courant et en voulant lui courir derrière, Sam Cooke s'est fait abattre par la patronne du bar qui a cru qu'il était en train d'agresser la personne en question. Et quand on a appris la mort de Sam Cooke, ça a été un choc à tout point de vue. D'abord un choc parce que les gens étaient vraiment, vraiment, vraiment attristés par cette mort. Et puis aussi par la façon dont il était décédé, parce que c'était, comme je vous le disais, une espèce de symbole de la lutte pour les droits civiques à l'époque aux États-Unis. Son corps est revenu à Chicago. Il y a eu une célébration où il y a eu 100 000 personnes qui sont venues autour de l'église où il y avait cette célébration. Il y avait même Cassius Clay qui était là, Muhammad Ali. Mais donc, il était né à Chicago. Il y avait la Sam Cooke Way que j'ai cherchée. Bien sûr, c'est une plaque moi, que j'aurais bien mis chez moi. Les Américains aiment beaucoup, dans toutes les villes, pas uniquement à Chicago, ils aiment beaucoup comme ça avoir des... notamment à New York, il y a beaucoup de rues comme ça, du nom de... pas seulement de musiciens, du nom d'acteurs, du nom de personnalités comme ça, qui ont leur petit bout de... entre tel numéro et tel numéro, et ben, ça s'appelle Sam Cooke Way. Voilà.
Certains lieux évoquent-ils l'histoire sociale et raciale de Chicago ?
Oh combien ? Chicago est sûrement la ville où il y a le plus grand nombre de manifestations diverses et variées, notamment pour les droits civiques dans les années 50, 60, 70 et encore récemment avec Black Lives Matter. Il y a eu des grandes, grandes manifestations anti-raciales aux États-Unis. Il y a eu notamment des victimes excessivement célèbres de ces émeutes raciales. Je dédie mon livre Streets of Chicago à deux personnalités, Eugene Williams et Emmett Till, qui sont deux victimes, deux gamins, deux teenagers victimes de la haine raciale. Eugene Williams, à une époque, on pouvait se baigner dans le lac Ontario, mais les Blancs et les Noirs ne pouvaient pas se baigner dans les mêmes eaux. Donc il y avait une partie réservée aux Noirs et une partie réservée aux Blancs. Et en s'amusant avec ses copains, Eugene Williams, il a un peu mordu sur la partie réservée aux Blancs. Et on l'a tué simplement parce qu'il avait nagé dans la partie réservée aux Blancs. Quant à Emmett Till, qui est un personnage symbolique beaucoup plus connu et beaucoup plus important dans l'histoire de la lutte pour les droits sociaux, Emmett Till, c'est un jeune garçon qui était né à Chicago et qui était élevé par sa mère à Chicago, un garçon très bien élevé, très posé, qui faisait de très bonnes études. Et puis, il est parti en vacances chez un cousin dans le Mississippi. Et en déconnant avec ses amis dans une épicerie, il a fait l'erreur de siffler la patronne de cette épicerie, qui était une blanche. Le mari de cette personne a retrouvé le pauvre Emmett Till, et avec des copains, ils l'ont carrément massacré. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire, en plus, c'est que la maman de Emmett Till a voulu absolument à ce que le cercueil de son fils revienne à Chicago pour que les gens puissent voir réellement ce qu'on avait fait à son fils. Le cercueil a été rapatrié à Chicago et il a été ouvert et mis dans une église qui existe toujours, que j'ai vue, mais qui est complètement délabrée. Je pense que si les gens la laissent toujours debout, c'est qu'il y a ce symbole dont je vous parle. Et donc, les gens ont pu défiler devant le cercueil d'Emmett Till pour voir à quel point ce jeune garçon a été massacré par la haine des Blancs. Ensuite, il a fallu attendre 80 ans pour que Eugene Williams ait une véritable tombe, un petit peu moins pour que Emmett Till ait lui aussi une véritable tombe avec son nom indiqué dessus.
Donc finalement, les églises et les cimetières de Chicago racontent l'histoire du peuple noir. Vous y consacrez d'ailleurs quelques pages à la fin de votre livre, que vous nommez les trois panthéons du blues. Qui repose dans ces lieux de recueillement ?
Je ne les connais pas par cœur, mais je peux dire qu'effectivement, il y a trois cimetières où il y a effectivement la plupart des grandes personnalités qu'on a citées dans notre discussion qu'on vient d'avoir, qui sont enterrées là. Aller dans ces trois cimetières qui sont pratiquement les uns à côté des autres.
Alors, j'ai la liste. Il y a le Restival Cemetery, le Burr Oak Cemetery et le Lincoln Cemetery.
Et là, il y a la tombe de Muddy Waters, il y a la tombe de Willie Dixon, celle de Little Walter, Bibi Bronzy, qui sont enterrés dans ces cimetières. Quand on va là, c'est intéressant de faire un pèlerinage pour passer un petit moment avec eux.
Philippe Brossat, j'aimerais achever notre déambulation sur Indiana Avenue chez Mahalia Jackson. Est-ce que cette maison existe toujours ?
Alors, la maison existe toujours, elle est toujours en très bon état. Mahalia Jackson, que vos éditeurs doivent bien connaître, qui est originaire de la Nouvelle-Orléans. Elle a été une personnalité importante d'une église qui existe toujours. Alors en même temps, je dis elle existe toujours, mais elle a pris feu il y a quelques années. Elle est en train d'être restaurée, mais ça fait quand même pas loin de 30 ans qu'elle est en train d'être restaurée pour devenir le musée du gospel. Elle était importante dans cette église, la Pilgrim Baptist Church, où le maître d'œuvre de l'église s'appelait Thomas Dorsey, qui est aussi une des grandes personnalités de l'histoire du gospel. C'est même lui, dit-on, qui aurait inventé le terme « gospel ». Et donc, Maya Jackson chantait dans cette église, la Pilgrim Baptist Church, son morceau le plus connu, Take My Hand, Precious Lord, qu'elle a joué aux obsèques de Martin Luther King à Atlanta en 68, qu'elle a joué aussi à l'investiture de John Fitzgerald Kennedy à Washington en 61. Vos auditeurs le savent encore mieux que quiconque, Maya Jackson est la grande personnalité de l'histoire du gospel. Elle a acheté une maison, donc elle a choisi une maison pas trop mal dans un quartier plutôt blanc et huppé de Chicago. Et les habitants ont très mal vu qu'une noire s'installe tout près de chez eux. Donc elle a tenu tête, elle est restée malgré les insultes qu'elle pouvait recevoir, malgré les vitres cassées par des jets de pierre. Elle a tenu tête à tous ces gens-là jusqu'au jour où la télévision américaine est venue l'interviewer chez elle, dans sa maison. Elle a eu la bonne idée d'inviter quelques têtes blondes des enfants des voisins blancs qui sont venus assister à cet enregistrement de CBS. Du coup, les autres autour se sont dit, tout compte fait, cette personne, elle n'est pas si mal que ça, puisque mes enfants ont pu être interviewés par CBS grâce à elle. Et quand elle est décédée, Maya Jackson, ça a été là aussi des obsèques importantes. Il y a eu 50 000 personnes qui se sont retrouvées lors de ses obsèques. Il y a eu ensuite un concert où il y avait la veuve de Martin Luther King, Loretta King, qui est venue. Aretha Franklin est venue. Elle a chanté le fameux « Take my hand, precious Lord » ce jour-là. Tout le monde était absolument en larmes. Ça a été donc une célébration importante. Et ensuite, le corps de Maya Jackson est reparti à la Nouvelle-Orléans où elle était née.
Vous devriez faire de la radio, Philippe Brossat. Voici Mahalia Jackson dans une version historique de « Take my hand, precious Lord ».
Precious Lord, take my hand, lead me on, take I am tired.
Precious Lord, Take My Hand, Mahalia Jackson en 1956. Philippe Brossa, vous m'avez donné envie de me rendre à Chicago et j'espère sincèrement que nos auditeurs auront également pu ressentir les vibrations de cette ville fascinante qui d'ailleurs est aussi la capitale de la house music. Et ça, c'est plus étonnant. Comment est né cet engouement pour cette forme d'expression et pourquoi à Chicago ?
Alors, c'est vrai qu'après les grandes heures de Chicago, années 30, 40, 50, il y a eu ensuite les années 60 où heureusement, il y a eu un garçon qui s'appelait Curtis Mayfield qui a créé sa propre maison de disques à Chicago et qui a fait quelques disques des années 70 absolument magnifiques parmi les plus beaux de l'histoire de la soul. Il avait un groupe qui s'appelait les Impressions, qui était aussi un groupe absolument magnifique. Mais les grandes heures de Chicago, malgré ça, étaient un petit peu en train de disparaître. Jusqu'aux années 90, où il y a eu un mouvement qu'on connaît aujourd'hui, la house music, qui est né à Chicago et c'est né dans un club qui s'appelle la Warehouse. Le bâtiment existe toujours. Il y avait un DJ qui s'appelait Frankie Knuckles, qui était un type absolument génial et qui a inventé beaucoup, beaucoup de choses. Il a inventé la façon de mixer les titres entre eux. Il faisait un espèce de mix entre des disques à la fois de soul, des disques de pop, des disques de funk, et puis aussi de variétés italiennes et de variétés allemandes. Et c'est assez typique de Chicago, parce que quand on se dit, depuis qu'on est ensemble tout à l'heure, on a eu à la fois le jazz, on a eu le blues, on a eu la soul, les gros spirituels, le gospel, plein de musiques qui se sont comme ça mixées à Chicago. Et ce n'était pas étonnant que la house music et le mix intégral, parfait, des différentes musiques soient nés à Chicago.
On pourrait parler pendant des heures de Chicago, Philippe Brossa, tant il y a à dire de cette ville Chicago. On aurait pu évidemment parler du Millennium Park, où se tient désormais le Chicago Blues Festival. On aurait pu aussi parler de la radio noire de Chicago, Voice of the Negro, WVON. Il y a beaucoup de choses à dire, mais vos commentaires et votre science musicale nous ont enchantés. Et je vous remercie d'avoir pris part à cette émission.
C'est très gentil à vous, en tout cas. Merci beaucoup.
Je rappelle que Streets of Chicago est disponible aux éditions Le Mot et le Reste. L'émission transatlantique du jour a été réalisée avec enthousiasme par Jérémy Boucher. Sans oublier le concours technique de Chantal Nouvelot de Radio France à Lyon. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.